Il y a quelques années, on se disait, bon, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les jeunes ont le choix des emplois. Et puis, il y a quelques années, bon, il y a eu la pandémie et autres, il y a eu un resserrement tel que les taux de chômage ont en fait grimpé et c'est les jeunes qui écopent le plus au niveau de manque d'emploi. Et il y a plusieurs de ces jeunes qui, comment on pourrait dire, ils ont peut-être besoin d'aide là, pour garnir leur bagage, leur baluchon, réussir à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et faire en sorte là, qu'ils vont vers un chemin qui leur ressemble davantage, que ce soit un retour aux études, un emploi qui leur convienne ou même encore de partir en affaires. J'en discute avec la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon, Cathy Lepage. Bonjour, Cathy.
Bien, bonjour, merci de l'invitation.
Bien, c'est un plaisir. Je pense que vous êtes une personne de conviction, comme je le disais dans l'introduction. D'abord, cette statistique, Cathy, c'est vrai qu'à un moment donné, ben, il y a quelques années, là, on se disait, bon, ça va être facile pour les jeunes, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et tout à coup, il semble y avoir eu un revirement dans ces statistiques, ça se peut?
Oui, tout à fait. Effectivement, on voyait l'avenir très radieux pour les jeunes parce que bon, il y avait vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et là, le tableau a complètement changé. Au Québec, c'est presque 11% de taux de chômage chez les jeunes. Et puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec nos voisins américains là qui nous font la vie dure.
Ouais. Ben,
puis ce matin, on voyait, hein, ça a des grosse incidence au niveau des bourses, probablement une récession mondiale. Fait que donc, c'est pas...
C'est rien pour aider, c'est rien pour aider.
Non, effectivement, rien pour aider.
Et comment le Carrefour Jeunesse Emploi peut développer une perspective positive à travers tout ça?
Bien, je pense que, entre autres, pour des clientèles qui sont plus fragilisées, et j'aimerais ça rajouter qu'au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, mais aussi, face à la pandémie, ça a fragilisé davantage les jeunes qui avaient des parcours déjà difficiles au niveau scolaire. Donc, il y a eu un taux de décrochage plus élevé de ces jeunes et on les retrouve dans nos services. C'est des jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, qui sont pas en formation ni au travail et qui ont perdu souvent beaucoup d'espoir dans leur face à l'avenir. Et nous, notre travail va être de travailler avec eux au niveau de l'estime de soi, puis de bâtir avec eux un projet de vie. Qu'est-ce qui les a allumés dans leur vie? Parce qu'on a tous rêvé quand on était enfant, adolescent, de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et c'est à ça qu'on va les raccrocher, puis on va aussi d'avoir une vision réaliste de ce qu'ils peuvent faire. Puis pendant les 26 semaines qui vont être, on va les accompagner pendant 26 semaines et il va y avoir différentes activités qu'il va aborder, autant l'employabilité, le CV, mais aussi toute la dimension personnelle et l'aide au niveau plus de soutien, au niveau psychologique, de connaissance de soi, puis de se raccrocher à un projet de vie.
Donc, vous dites qu'il y a plus d'enjeux de santé mentale, plus d'anxiété chez les jeunes. Ça doit avoir impacté vos programmes aussi, la manière dont vous les accompagnez?
Bien, tout à fait. T'sais. Puis, on a vraiment besoin d'avoir des travailleuses ou des travailleurs qui sont plus spécialisés au niveau de l'accompagnement psychosocial. Donc, on n'emploie pas juste, nos employés, c'est pas juste des conseillers ou des conseillères en emploi, mais c'est vraiment aussi des personnes qui ont étudié en travail social pour faire de l'accompagnement psychosocial. C'est essentiel. D'autant plus que, ben, vous le savez, en santé et services sociaux, les listes d'attente sont très élevées chez les jeunes aussi. Donc, pour avoir des services, c'est très, très, très long. Puis ces jeunes-là en ont besoin. Il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes de consommation, de dépendance. C'est pas juste à l'alcool ou aux drogues, ça peut être aux jeux aussi. C'est vraiment un accompagnement puis une vision globale du jeune pour lesquels on travaille. Et on travaille aussi, on n'est pas déconnecté, on ne travaille pas tout seul dans notre coin. On travaille aussi avec d'autres organismes du milieu qui viennent soutenir ces jeunes-là, ainsi que le CLSC, là, les centres de santé et services sociaux.
Cathy, ça fait quand même plusieurs décennies que les Carrefour Jeunesse Emploi existent. D'ailleurs, j'ai appris que c'était l'ex-premier ministre Jacques Parizeau qui avait contribué à leur fondation.
Tout à fait. Puis c'est vrai parce que c'est à l'époque, dans les années 90, il y avait quand même une grosse crise économique. Hein. Le taux de chômage était très élevé chez les jeunes. C'était nos futurs, là, qu'on disait. Il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Et c'est à la suite de ça que M. Parizeau, avec sa femme, ont créé les Carrefour Jeunesse Emploi et ont déployé plusieurs services à travers tout le Québec. Hein. Donc, ça répond vraiment à un besoin. On est différent, mettons, des maisons de jeunes. On est complémentaires à eux. Et puis, on prend le jeune où il est. Et c'est un accueil universel. Pour nous, si dans tel programme, il ne fit pas, on va le dire comme ça, là, mais ça va peut-être être un autre programme qu'on a et on va accueillir chaque jeune dans sa dimension, dans son parcours, puis c'est de l'amener à cheminer à travers ça. Là. Donc, ça se fait sans jugement. Ça, c'est pour nous très, très important. C'est une valeur importante.
Dites-moi, Cathy, on a reçu il y a quelques semaines la directrice générale de la MASC, donc l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Comment les Carrefour Jeunesse Emploi s'inscrivent un petit peu dans les organes, dans les MASC, les milieux adaptés de scolarisation?
Bien, on travaille même dans certaines écoles sur notre territoire qui sont des classes d'adaptation scolaire où il y a plusieurs étudiants qui ont des profils atypiques, comme on dit, ou certains diagnostics. Et puis ça, bien, on fait des projets avec eux. On fait aussi de l'accompagnement scolaire, de la réussite. On a aussi un financement pour la persévérance et la réussite scolaire. Puis on a des parcours individualisés puis de l'accompagnement pour ces personnes-là. Et souvent, d'avoir, entre autres, on a un programme présentement, là, c'est mon histoire en héritage. C'est une classe en adaptation scolaire qui on fait une vidéo avec eux, avec le professeur, sur l'échange entre l'histoire des personnes âgées qui vivent, qui sont impliquées au niveau des aînés, avec ces jeunes-là. Ils sont jumelés et ils font un tournage ensemble sur leur vie de ces personnes âgées-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment intéressant. Puis il y a un échange qui est profitable aux deux, là, autant pour les jeunes que pour ces personnes-là, qui souvent, des fois, on écarte les personnes âgées de nos sociétés, se sentent isolées. Fait que donc, c'est vraiment intéressant comme projet. Là.
Mais j'imagine aussi de prendre contact avec des gens qui ont vécu différentes époques, différentes épreuves et qui en ont trouvé des leçons de courage à travers ça. Ça doit donner une perspective, ça doit élargir un petit peu les perspectives pour ces jeunes-là.
Tout à fait, effectivement. Tu sais, puis souvent, c'est des histoires qu'on connaît pas. Hein? Tu sais, fait qu'ils découvrent une autre dimension de la vie, puis des expériences de vie, et puis souvent d'époques qu'on connaissait pas, de certaines décennies, hein, finalement. Tu sais. Puis on a un autre projet dans une école à Magdeleine, c'est la polyvalente sur notre territoire. C'est un podcast qui est animé par des élèves autistes, où ils interviewent d'anciens élèves qui ont réussi leur transition vers la vie adulte. Tu sais. Puis là, au début, c'était ça, le projet. Oui. Et là, c'est en train d'évoluer parce que là, il y a maintenant des élèves du régulier qui veulent aussi s'impliquer parce qu'ils trouvent ça intéressant. Tu sais. Fait que donc, puis là, on est en train d'avoir avec les professeurs là, sur quelle plateforme ça va être disponible puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Ça les a impliqués dans un projet qui est très concret.
J'allais justement vous demander où on peut écouter ça. Donc, c'est à venir pour l'écoute publique.
Oui. Oui, c'est à venir, ça vient d'être fait, là. Fait que c'est ça. Puis il faut travailler, tu sais, dans le milieu scolaire, hein, c'est pas le même rythme non plus, hein. Mais c'est l'important pour nous, c'est qu'il y ait des projets qui sont concrets pour les jeunes. Parce que c'est ça souvent qui manque, c'est de pouvoir. Puis tu sais, l'autre, mon histoire en héritage, les jeunes participent et apprennent à travers le tournage. Ça aussi, c'est intéressant. Là. C'est le projet, c'est de A à Z. On a engagé une équipe de tournage qui est professionnelle, mais ils doivent avoir un volet formation avec ces jeunes-là. Fait que c'est vraiment intéressant.
Et il y a un projet, je crois, qui encourage le bénévolat chez les jeunes?
Oui, ça fait partie. Bien, les projets que je te parle là, c'est dans le cadre du bénévolat qui engage, c'est que ça. Mais on a aussi une autre forme de bénévolat qui est l'été. Ça va commencer bientôt là. C'est de participer au jardin collectif de l'entreprise. de l'organisme qui est sur notre territoire, qui est Le Partage, et qui est un organisme en sécurité alimentaire, fait qu'ils font un gros jardin collectif. Alors, on a plusieurs bénévoles jeunes qui sont impliqués du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'à l'automne, et ça permet de soutenir des familles à l'aide alimentaire, parce que ce qui est récolté est donné à ces familles-là. Mmh. C'est vraiment, fait que, puis c'est un beau jardin, là. Puis cette année, il va être encore plus gros. Fait que donc, puis je trouve que c'est une belle façon aussi d'apprendre comment on cultive des légumes, comment ça. Tu sais, après ça, c'est un savoir que tu vas garder toute ta vie, que tu vas pouvoir reproduire. Ça aussi.
On peut même s'en servir pour des activités éducatives. On peut apprendre toutes les matières à travers le jardinage. Dites-moi, j'adresse un message à nos auditeurs. Si vous voulez en savoir davantage sur le partage, nous les avons reçus il y a quelques semaines à l'émission, donc vous allez pouvoir retrouver cet épisode dans notre plateforme de balado. Et donc, je comprends que c'est vous qui avez embauché le directeur général, Frédéric Côté.
Oui, tout à fait. À l'époque, ben, dans une autre vie, j'étais directrice générale du partage, puis oui. J'avais procédé à l'engagement de Frédéric, qui était directeur adjoint, puis un jour, je suis partie, et c'est Frédéric qui a pris la relève de l'organisme avec brio.
Oui, on a pu entendre sa passion et sa vision très novatrice sur l'impact social des organismes sans but lucratif. Cathy, je vous propose de prendre une courte pause et j'aimerais aussi parler un petit peu là, de votre passage en politique puis de voir un peu à l'ère là, des élections fédérales. Là, ça veut dire quoi la politique là, en 2025? On revient dans un instant.
Parfait.
Retour au Héros anonymes avec Cathy Lepage, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon. Cathy, tout juste avant la pause, j'évoquais votre passage en politique. Je me demande tout le temps, est-ce que être à quelque part dans un organisme communautaire, c'est pas déjà un geste politique?
Oui, tout à fait, c'est un geste politique certain parce qu'on travaille beaucoup sur la transformation sociale, hein? Donc, c'est prendre position, c'est de travailler avec des gens qui souvent sont exclus de la société ou qui vivent, en tout cas, qui sont vulnérables. On est un peu idéaliste quand on travaille dans un organisme communautaire. Il faut le dire, là, mais on veut travailler à améliorer la société puis les conditions de vie des gens. Mais pour moi, oui, en même temps, c'est le politique dans son sens large, les gens au Parlement ou à l'Assemblée nationale, chaque jour, les décisions, les lois qu'ils votent ont un impact dans le quotidien des gens.
Sur vos programmes, notamment sur le financement de tous les organismes sociaux, ça découle d'abord par un engagement ministériel, toute la notion de budget, on a traversé ça récemment. Là, c'est une décision de voir qu'est-ce qu'on va soutenir ou pas.
Tout à fait, mais aussi la décision du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est le gouvernement qui le fixe. Ça a un impact au niveau aussi des prestations pour les personnes âgées. L'ensemble des décisions a un impact sur le quotidien des gens. Puis ça, on a tendance à l'oublier. Les gens, ils pensent, mais pour moi, c'est fondamental dans une société, là, on s'intéresse à la politique dans son sens large, parce que ça a des impacts et ça. Parce qu'on pourrait pas vivre sans État, hein, finalement. Puis l'État, c'est en tout cas, moi, ce que j'aspire, c'est que le gouvernement qui soit en place, l'État, permette une meilleure répartition de la richesse.
C'est sûr, là, je vous amènerai pas nécessairement sur le terrain de la campagne fédérale actuelle. Là. Je voudrais que ça demeure quand même intemporel. Ceci dit, Frédéric Côté, justement, que vous avez bien choisi, nous amenait la question du calcul de l'impact social. Et j'ai pas nécessairement trouvé encore d'études qui démontrent comment $1 investi dans le communautaire rapporte tellement plus, même que certaines autres formes d'investissement. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez une réflexion aussi à ce sujet.
Bien, tout à fait. Mais oui, il n'y a pas d'études. En tout cas, on le voit pas. Mais en même temps, nous, on le sait. Ça fait longtemps que je travaille dans les organismes communautaires et ça a un impact direct là, chez les gens, puis ça change leur vie. Et quand un jeune qui vient chez nous, qui pendant fait 3-4 ans, qui a décroché complètement, qui était assis dans son salon dans le sous-sol, puis qui jouait, puis qu'il se reprend en main, il retourne aux études. Il finit son parcours scolaire puis il retourne sur le marché du travail, bien, pour moi, ça a un impact direct, là. Donc, l'action qu'on fait n'est pas futile, là. Elle est vraiment... puis si nous, on n'était pas là présentement, là, il y a quand même... Tu sais, dans la santé et services sociaux, il y a eu beaucoup de coupures, puis on est encore en... Comment ils appellent ça? Il ne faut pas le dire, là, d'austérité. Mais bon, c'est quand même ça. Les listes d'attente sont longues. Vers où les gens se tournent? Ben, vers les organismes communautaires.
Oui.
On est ce filet-là.
Ben oui, c'est ça. C'est des héros anonymes. C'est pourquoi on vous reçoit chaque semaine pour découvrir. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est les organismes qui maintiennent le filet social en place. Cathy, j'ai envie de vous amener un petit peu là, sur les jeunes un peu d'aujourd'hui. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, qui est une réalité nouvelle, là, qui n'était pas là lors de leur fondation. Tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Personnellement, et comme sans doute plusieurs auditeurs, je suis plongée dans la série Adolescence sur Netflix, là, qui parle de l'influence des réseaux sociaux, entre autres sur la construction identitaire des jeunes garçons, un peu de la misogynie et autres. Comment le Carrefour Jeunesse Emploi, vous réussissez à dresser ces situations-là de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes?
Ben, on en parle.
Oui.
On l'aborde avec eux, justement, tu sais, qu'il faut avoir un point de vue éclairé, il faut diversifier nos sources. Oui. Et c'est pas juste TikTok, c'est pas juste mon Snapchat, je pense. Ils sont plus là-dessus, là, pas tellement sur Facebook, les jeunes, et d'autres plateformes. Et on trouve vraiment, faut comme ouvrir la conversation avec eux, puis comment ils peuvent limiter leur temps, puis qu'il y a d'autres choses qui existent, puis il y a le monde réel. Parce que, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de jeunes sont là-dessus, mais il y a beaucoup d'anxiété. Parce que ça nourrit aussi une polarisation.
Absolument.
Des discours, la haine, puis la vie, c'est autre chose, là. Donc, il faut les amener ailleurs. Mais tu sais, pendant la pandémie, on a vu beaucoup les jeunes par Team ou par Zoom. Et je suis...
Oui, on faisait l'école à distance comme ça.
Aussi, puis les services qu'on offrait, nous aussi, on les offrait comme ça, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, là, c'est très rare que les jeunes, on leur offre là, des fois de pouvoir être en Zoom ou en présentiel. Ils choisissent à plus de 90% d'être en présentiel.
Ah ben ça, c'est encourageant.
Fait que je me dis, ils veulent avoir ce contact-là humain. Donc, il faut donc juste offrir l'occasion pour que ça se passe. Puis nous, pendant comme les jeunes qui sont de départ à 9, ben il n'y a pas de cellulaire pendant la journée qu'ils sont avec nous. Là, les activités qu'on fait avec eux, il n'y a pas de cellulaire. Ils le ferment, ils le mettent de côté parce qu'on est dans des discussions avec eux, dans des apprentissages. Et je pense ça aussi. Je pense que je pense qu'il y a des politiciens qui veulent aussi limiter le temps puis de sortir les téléphones cellulaires des écoles. Bon, avant les cellulaires, on a tous vécu sans cellulaire, puis on n'est pas moins fort ou plus fort, mais bon, je pense que...
C'est de varier les sources et on s'entend que les deux mains dans le jardin collectif cet été, il n'y a pas de place pour le cellulaire là-dedans.
Non, il n'y a pas de place pour le cellulaire quand tu as les deux mains dans la terre. Fait que c'est ça, c'est varier aussi les styles d'apprentissage, s'adapter à ces jeunes-là. Mais il ne faut pas non plus dire rejeter complètement l'intelligence artificielle ou les médias sociaux, c'est apprendre à les utiliser à bon escient. Parce que c'est pas tout mauvais non plus, là.
Bien, je vois, j'entendais d'ailleurs cette semaine là, qu'il y a un usage grandissant des outils d'intelligence artificielle, même comme thérapie. Il y a des gens qui se confient à leur intelligence artificielle et qui se retrouvent à les aider, tu sais, faute d'accès à des soins. C'est quoi votre vision à ce sujet-là?
Ben, moi, je pense que un psychologue humain, je pense que ça c'est toujours mieux que l'intelligence artificielle. Mais bon, parce que tu sais, dans ce qui est, d'abord dans le thérapeutique, c'est toute la relation de confiance qu'on va bâtir avec le thérapeute. Et ça, c'est profondément humain, là. C'est là qu'est ma position. C'est sûr que, bon, si tu n'as rien d'autre, puis tu vas vraiment pas bien, puis tout ce que tu trouves, c'est un support d'intelligence artificielle, bon, c'est mieux que rien, mais ça devrait pas être que ça. Parce que si tu étais en détresse puis tu as besoin d'aide, ben on devrait être capable de trouver puis d'avoir accès à des ressources spécialisées puis des gens, des humains qui font ce travail-là.
Mais Cathy, il n'y a pas un côté aussi où notre société est rendue tellement individualiste, tout le monde est pressé, on n'a pas le temps de se parler. Tu sais, d'avoir un adulte signifiant, oui, il y a les parents, mais des fois, on peut vouloir se confier à un professeur, à un oncle, à une tante, à une personne qui est là pour écouter. Comment, comme société, on est interpellé aussi dans l'ouverture qu'on peut faire à ces jeunes?
Oui, effectivement, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça parce que des fois, c'est pas besoin d'une aide spécialisée. C'est des gens qui nous entourent et c'est aussi de dire aux gens qui nous entourent, ben ces gens-là, tu sais, d'avoir le cœur puis un œil ouvert par rapport à les jeunes qui côtoient, puis de les recevoir sans jugement. Puis s'ils sentent qu'ils sont reçus sans jugement, puis qu'ils sont capables de, ils vont se confier, puis ils vont peut-être aller plus loin dans leur détresse, puis de le dire, tu sais, de nommer les choses qui vivent où ils ne sentent pas bien, puis de parler de leur anxiété souvent, tu sais. Fait que je pense que c'est nous, comme adultes, d'être ouverts face aux jeunes, puis de pas ou non plus, parce que souvent, tu sais, on est plus tendance à nommer des préjugés, tu sais, avoir des préjugés, puis entretenir ces préjugés-là par rapport aux jeunes, que d'essayer de dire, on va aller plus loin que le préjugé qu'on entend que ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, ils sont individuels, ils sont tout seuls, ils veulent pas communiquer.
Il y a les enjeux de genre aussi que parfois les parents, les grands-parents sont un peu dépassés sur ces questions-là, de dire comment j'adresse un peu ce que peut-être je perçois comme une recherche ou une errance chez mes jeunes et souvent on traîne malheureusement des biais inconscients qui font qu'on plutôt que d'être dans l'écoute, on va être plus dans le jugement.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça, ben, c'est dramatique pour ces jeunes-là qui vivent un questionnement. C'est sûr qu'aujourd'hui, nos sociétés ont plus d'ouverture par rapport aux différences, puis par rapport à la sexualité. Puis il faut être capable d'accueillir ça aussi. Puis l'important, c'est de ramener le parent et de dire, ben, c'est mon enfant, puis il a besoin de moi, il a besoin de mon aide, tu sais. Il a besoin de mon écoute. Tu sais. Fait qu'il faut aller au-delà de... Puis les questionnements qu'on a quand on est adolescent par rapport à son orientation sexuelle ou comment on se perçoit au niveau de son identité, ben c'est un passage. Il n'y a rien de fixé non plus à cet âge-là.
Et Cathy, peut-être en terminant, s'il y a des parents à l'écoute ou des grands-parents qui reconnaissent que peut-être leur enfant aurait besoin de vos services, comment réussir à convaincre notre jeune du bien fondé de vos services?
Bien, lui dire que c'est gratuit, c'est sans jugement, il va être accueilli avec ce qu'il est comme personne, puis que même le grand-parent ou le parent peut même l'accompagner pour une première fois, l'accompagner dans nos services, on va les accueillir, puis ça va être... c'est le début de quelque chose aussi, hein? C'est d'arriver chez nous, d'être accueilli, bien, c'est le début d'un parcours d'un nouveau projet, puis je pense que c'est optimiste. je pense que c'est la façon de le voir, mais c'est ça. Puis on est ouvert là à toutes sortes de jeunes. Tu sais, pour nous, on fait pas de distinction, puis on reçoit de plus en plus une clientèle de jeunes immigrants qui fait pas longtemps qu'ils sont arrivés au Québec, puis que ils se questionnent par rapport à notre société, par rapport aux besoins, les ressources.
Cathy, on va inviter nos auditeurs à visiter le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, ce fut un plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.